T'es avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur un sujet tabou. Nous parlerons de la santé des chefs d'État et on en parle, car depuis maintenant un mois, les rumeurs les plus folles circulent sur le président nigérian. Certains le disent gravement malade, d'autres l'affirment qu'il serait même mort, en tout cas depuis le 19 janvier. Mouamadou Bouhari est à Londres pour des raisons médicales. Son retour a plusieurs fois été reporté. Aucune information ne filtre. Du coup, l'opposition exige la vérité. Polémique également en Algérie, où le président Bouteflika a dû annuler à la dernière minute la semaine dernière la visite de la chancelière Angela Merkel. Officiellement, on invoque une bronchite aiguë. En tout cas, à Alger, on s'interroge sur les capacités du chef de l'État à diriger le pays. Alors, que vous inspire le silence qui entoure bien souvent la santé des présidents? Le sujet est-il également tabou dans votre pays? On a envie de vous entendre. Vous nous rejoignez. Vous continuez évidemment à nous appeler. 33 9 693 693 70 et vos réactions sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à 7h06, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Adama nous appelle du Mali. Il est à Bamako exactement. Bonjour Adama.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez-vous des questions sur la déradicalisation des djihadistes en France?
Exactement, Juan. Bon, je salue tout le monde. J'ai appris qu'il y a deux sénatrices qui ont parlé du non-fonctionnement de la déradicalisation en France. J'aimerais bien savoir sur quoi sont-elles basées pour confirmer cela et quelles solutions suggèrent-elles pour être dedans.
Alors, le réseau n'était pas très bon, mais vous revenez effectivement sur ce rapport publié la semaine dernière. Deux sénatrices, Esther Bembassa d'Europe Écologie Les Verts et Catherine Troendlé des Républicains, qui qualifient de fiasco complet la lutte contre l'endoctrinement djihadiste. Bonjour David Thompson. Bonjour. Journaliste à RFI, spécialiste des filières djihadistes. Vous avez publié il y a à peine deux mois aux éditions Seuil Les Jours. Les revenants, ils étaient partis faire le djihad. Ils sont de retour en France. Et pour être très honnête, les conclusions publiées par ces deux sénatrices la semaine dernière, vous en parliez déjà dans votre livre publié il y a deux mois, il en ressort que tous les programmes mis en place par le gouvernement sont inefficaces, constat sévère.
Constat sévère, et c'est effectivement exactement le même constat que je fais dans mon livre. En fait, il y a deux choses dans ce rapport. Ce rapport parle des associations auxquelles ont été confiées des missions de déradicalisation par le ministère de l'Intérieur, et aussi le premier centre fermé, dit là aussi de déradicalisation, qui a été mis en place il y a quelques mois par le gouvernement de Manuel Valls. Dans tous les cas de figure, effectivement, les sénatrices, le rapport parlementaire conclut à un échec total qui est identifié pour deux raisons. La première, c'est le manque d'expérience, de formation des gens qui sont les animateurs de ces associations ou de ces centres. Le rapport ne mâche pas ses mots aussi sur l'aspect lucratif de la déradicalisation, qui est devenu en France un véritable business avec des pluies de subventions. En ces termes, le rapport parle d'un business de la déradicalisation.
Donc ça signifie qu'un certain nombre d'associations, de personnalités se sont improvisées spécialistes de la déradicalisation, tout simplement parce qu'il y avait des budgets mis en place par le gouvernement pour essayer de trouver effectivement des solutions, voire même de créer des centres.
Absolument. Et le rapport explique pourquoi des gens se sont improvisés experts en déradicalisation de façon aussi rapide et comment ils ont pu convaincre les autorités. Tout simplement parce qu'il y avait un vent de panique en 2014, lorsque tout s'est décidé au ministère de l'Intérieur. Le printemps 2014, les autorités françaises réalisent l'ampleur du phénomène djihadiste, le nombre de Français qui sont en Syrie se disent il faut absolument faire quelque chose. Et là, sur le marché, si j'ose dire, il n'y a pas non plus beaucoup d'offres, et c'est un peu le premier venu qui obtient le marché.
Et concrètement, on va revenir justement sur ces nombreuses personnalités improvisées, spécialistes. Concrètement, que préconisent donc les deux sénatrices? Elles disent c'est un fiasco complet, mais enfin elles préconisent quoi pour améliorer les choses?
C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas vraiment de préconisation et personne n'a de formule magique, contrairement à ce qui a pu être dit en 2014, en 2015, où des chiffres de personnes qui auraient été déradicalisées étaient constamment avancés, de personnes qui auraient été empêchées de partir en Syrie, etc. Le rapport rappelle que certaines personnes qui étaient dans ces centres, qui avaient été présentées comme des vitrines de la déradicalisation à la française, ont été arrêtées sur le chemin de la Syrie.
Oui.
C'est d'ailleurs ce que j'évoquais dans mon livre. Une des jeunes femmes qui est passée par le CPDSI, le centre dit de déradicalisation de Dounia Bouzar, qui était la personnalité la plus en vue sur ce créneau, a été a suivi ces sessions de déradicalisation. Ça n'a eu aucune incidence, d'après les entretiens que j'ai pu mener avec elle, sur son degré de radicalisation. Et aujourd'hui, cette jeune femme est repartie en Syrie.
Ouais, Dounia Bouzar, anthropologue, c'est elle qui a formé d'ailleurs les premiers personnels de l'État au sujet de la déradicalisation. On l'a vu sur tous les médias, on l'a entendu sur tous les médias. Et aujourd'hui, elle fait l'objet de nombreuses critiques.
Alors aujourd'hui, elle est de plus en plus contestée. Elle n'a plus de mandat public du ministère de l'Intérieur. Son discours est remis en cause, qui était un discours uniquement basé sur l'approche sectaire. Aujourd'hui, les autorités, les institutions commencent à reconnaître que on n'a pas affaire uniquement à une secte, que ces gens sont ancrés dans une idéologie, dans une vraie religiosité. Donc déjà, sur l'approche analytique, il y a une remise en cause. Et puis effectivement, sur le bilan, ces parlementaires, mais ce n'est pas les premiers, ce rapport, et d'autres, je pense à Nathalie Goulet, la sénatrice, qui demande depuis longtemps une évaluation indépendante, par un audit indépendant de ce programme, l'attend toujours, n'a pas eu lieu, parce que ça, c'est aussi encore une des critiques qui est faite par le programme, par le rapport à tous les programmes de déradicalisation, c'est qu'ils fonctionnent toujours dans l'opacité totale, opacité quant à ce qu'ils font des budgets publics qui leur sont alloués, mais aussi sur comment ils obtiennent, comment ils déradicalisent, quels sont leurs résultats.
Ouais, on parle de déradicalisation, un terme qui est contesté par ces deux sénatrices, terme que vous avez d'ailleurs vous-même remis en cause dans le livre que vous avez publié il y a 2 mois.
Oui, j'explique que ce terme est de plus en plus tabou dans le champ institutionnel, dans le débat public. Parce que il y a un aveu derrière cette évacuation du terme. On préfère le terme de désembrigadement, de désengagement violent. Tout simplement, ça veut dire que l'autorité reconnaît qu'il est difficile de sortir quelqu'un de cette idéologie-là. Il y a le parallèle qui était fait dans le rapport avec les groupes terroristes d'extrême gauche dans les années 70, dans les années 80. À cette époque-là, il n'y a pas eu de centres de déradicalisation qui ont été mis en place. Ces gens ont été jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Et aujourd'hui, ce qu'on note, et le rapport le rappelle aussi, c'est que ces figures de ce mouvement extrême gauche terroriste dans ces années sont encore ancrées dans cette idéologie là. Donc c'est très difficile de sortir quelqu'un d'une idéologie politique violente.
Ouais, et en lisant votre livre, j'avais relevé ces propos d'un des combattants qui était revenu du djihad. Il disait tout cela, tous ces programmes, donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Comment peut-on déradicaliser des gens sachant qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des radicaux mais comme des musulmans en conformité avec le Coran?
Et là, vous avez deux sénatrices qui disent exactement la même chose.
Merci David Thompson d'être venu répondre à Adama qui nous appelait de Bamako au Mali. Bamako où il est 8h18. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous nous appelez, on prend le temps de vous répondre chaque matin. 33 9 693 693 70. Olivier Roger du Service Afrique est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans ce studio. Des questions sur la Gambie. Fadel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Olivier Roger, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Port-Gentil au Gabon, soyez le bienvenu, on vous écoute.
La semaine dernière, la police gambienne a arrêté Yacouba Bantu, ex-patron des services de renseignement gambien. Il est notamment accusé d'avoir assassiné, torturé et fait disparaître plusieurs personnes. Alors, pourquoi n'a-t-il pas bénéficié de l'asile politique comme le président Djamé? Et depuis la prise de fonction du président Barrow, a-t-il le seul proche hier à Djamé qui a été arrêté?
Oui, l'ex-patron de la NIA, les services de renseignement gambiens, arrêté la semaine dernière, arrêté et mis en examen pour meurtre et complot en vue de commettre un meurtre. Olivier Roger, rappelons tout de même que la NIA était considérée comme l'instrument de répression du régime de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh qui a dirigé le pays d'une main de fer durant pratiquement 23 ans. La question de notre auditeur est pertinente. Yahya Jammeh réussit à obtenir l'asile pour lui et ses proches. En revanche, pour le numéro 1 de ses services de renseignement, il n'obtient rien.
Alors, pour répondre très précisément, l'accord qui avait été signé prévoyant le départ de Yahya Jammeh, techniquement, cet accord prévoyait que le président gambien et ses proches étaient les seuls à se voir offrir l'hospitalité par la Guinée équatoriale. Cet accord s'étendait donc à sa famille et ensuite Yahya Jammeh a choisi lui-même les personnalités qu'il allait emmener dans son exil. Alors par exemple, il a pris son chef de la garde garde présidentielle, le général Saul Bagé. Il a pris aussi le chef de sa garde personnelle, Upamendi, ainsi que son chef de protocole. Il a donc choisi les personnes qui l'emmenaient avec lui en Guinée équatoriale. Et parmi ces hommes ne figurait pas Yankuba Bagé, effectivement.
Pourquoi
alors? Bah, écoutez, le seul à avoir cette réponse, c'est le président Djamé qui a choisi les gens qui devaient l'entourer dans son exil. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que l'accord qui avait été signé à Banjul par le représentant de la CDAO, de l'Union africaine, des Nations unies, stipule que les Nations unies, la CDAO, l'Union africaine, exhortent le gouvernement de Gambien, le nouveau gouvernement, à prendre toutes les dispositions pour éviter qu'il y ait une chasse aux sorcières, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'intimidation contre les militants, contre les membres du gouvernement Djamé, contre les partisans de sa formation politique. Alors, est-ce que Yankuba Bagé a jugé que c'était suffisant pour lui garantir une certaine forme de tranquillité? En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que lui-même n'a pas fui le pays durant cette période de transition, avant que le président Barrot ne quitte le pays. Est-ce qu'il s'estimait protégé? Est-ce qu'il voulait éviter de donner l'impression qu'il avait des choses à se reprocher? On ne peut que spéculer. Ce qu'il faut préciser concernant cet accord, c'est qu'il a été signé par la communauté internationale et l'ex-président Yahya Djamé, mais il n'a pas été paraffé par les nouvelles autorités gambiennes qui n'ont pas participé directement à sa rédaction. Et on ne peut rien reprocher d'un point de vue juridique au président Barrot de ne pas avoir respecté formellement un texte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'une certaine façon, le nouveau gouvernement gambien et les nouvelles autorités ne peuvent pas non plus éviter de prendre un certain nombre de mesures d'apaisement vis-à-vis de leurs propres militants, vis-à-vis de la population gambienne qui attend beaucoup de choses, notamment en termes de réparation et en termes de lutte contre l'impunité. Il fallait donc prendre des actes, sinon elles s'exposaient bien évidemment à des fractures au sein de leurs militants. Et d'un autre côté, on a effectivement certains médiateurs dans la crise gambienne qui disent aujourd'hui, attention, ces arrestations sont peut-être le début d'une chasse aux sorcières. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a surtout l'impression que le gouvernement prend un plumeau pour balayer les scories de l'ancien régime et surtout punir des personnes qui sont responsables de crimes. Mais on n'est pas encore tout à fait dans ce que craignent certains, c'est-à-dire une chasse aux sorcières qui s'étendrait à des secteurs entiers de l'appareil répressif, de l'appareil judiciaire et de l'appareil politique.
En tout cas, pour répondre à la deuxième question de Fadel, depuis la prise de fonction d'Adama Barrot il y a maintenant un mois, quasiment jour pour jour, il y a eu d'autres arrestations de l'entourage proche de l'ancien président.
Alors, Yankuba Bagé a été arrêté tout d'abord en compagnie de Cheikh Omar Dieng, qui était le chef des opérations de la NIA, et six autres personnalités impliquées dans cette agence de renseignement, qui était aussi une police politique. Six autres personnalités ont été arrêtées, et les huit ont été inculpées, notamment pour le meurtre d'un opposant qui s'appelait Solo Sandeng. C'était une histoire qui avait défrayé la chronique en avril 2016, parce qu'elle avait soulevé une émotion énorme. Cet opposant de l'UDP avait été arrêté au cours d'une manifestation et il était mort des suites de ses tortures par la NIA en prison. C'est une affaire qui avait soulevé d'autant plus d'émotion qu'il se disait à Banjul que Yankuba Bagé lui-même avait assisté à certaines séances de torture. La justice va donc devoir faire maintenant toute la lumière sur cette affaire. Une autre personnalité importante a été arrêtée, c'est le général Bora Kolé, mais lui a été arrêté par les Sénégalais alors qu'il tentait de fuir la Gambie au moment où il n'y a jamais quitté le pays. Bora Kolé, c'est un homme très important et il est toujours aux mains des Sénégalais parce que c'est l'ancien directeur d'une prison où ont disparu nombre de personnalités, notamment des Sénégalais. Il est soupçonné aussi d'être le chef d'un groupe plus ou moins paramilitaire, une espèce de commando de la mort qu'on appelait les junglers. Et les Sénégalais sont très intéressés par ce personnage qui aurait participé notamment pour le compte de Yahya Djamé à des fournitures d'armes aux rebelles casamancés dans les années 2000.
Et on précise également que l'ancien ministre de l'Intérieur de Yahya Djamé a été arrêté en septembre dernier en Suisse, où il fait...
Oui, il s'était réfugié en Suisse, voilà. Et les Suisses, au moment où Yahya Djamé a quitté le pouvoir, l'ont arrêté. Il était dans un camp.
Fadel, on a répondu à vos deux questions ?
Oui, comme d'habitude.
Bon, et ben, écoutez, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. À bientôt, Olivier Roger.
Merci.
9h25 à Paris, on a le temps de prendre une dernière question. On a été gourmand ce matin, on a pris le temps vraiment de vous répondre, et on est là pour ça avant tout. Qui avons-nous au standard? Nous avons, il faut que je retrouve ma petite Romuald. Bonjour Romuald.
Bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de l'Appel sur l'actualité.
Vous êtes à Abidjan et vous avez des questions sur le rapport annuel d'Amnesty International publié la semaine dernière, rapport qui passe en revue la situation des droits de l'homme dans 159 pays.
En effet,
Il y a quelques jours de cela, Amnesty International a présenté un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi 2016 est présenté comme l'année des pires violations des droits de l'homme alors que 2015 avait été déjà été considéré comme une année catastrophique? Et quels impacts sur les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme et à quoi sert-il?
Ah, bonne question. À quoi sert ce rapport annuel? Bonjour Nicolas Crameillère.
Oui, bonjour.
Vous êtes le responsable du programme Liberté à Amnesty International France. En 2015, Amnesty International dénonçait une année catastrophique dans le monde. En 2016, la situation a encore empiré. Vous dites 2016 a été sali par l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits humains. Pourquoi 2016 a été pire que 2015?
Alors, ce que l'on constate par rapport à, effectivement, au rapport de 2015, c'est qu'un certain nombre de tendances extrêmement dangereuses se sont accentuées. Si on doit résumer, on peut en citer trois. La première, c'est que dans de très nombreux pays, de nombreux responsables politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir développent de plus en plus un discours de peur, de haine, une rhétorique finalement du « eux contre nous » qui crée des boucs émissaires parmi des groupes entiers de la population. Et puisque ces groupes entiers sont désormais vus comme des menaces par un certain nombre de responsables politiques, alors on nie leurs droits fondamentaux. Mmh. C'est ce que l'on voit, ce que l'on observe par exemple avec Orban en Hongrie concernant les réfugiés, avec Erdogan en Turquie. Qui a lancé une purge invraisemblable suite à la tentative de coup d'État dont il a été l'objet, avec le président Duterte aux Philippines qui a légalisé finalement une politique d'assassinat
officiellement pour lutter contre la drogue.
Officiellement pour lutter contre la drogue, mais on voit d'abord et avant tout, d'après l'enquête que nous avons publiée, que ce sont les pauvres qui sont les premiers ciblés, et on parle de 6000 exécutions extrajudiciaires sous son régime.
Ouais.
Mais le dernier exemple, c'est bien sûr le président Trump aux États-Unis, qui, pendant toute sa campagne, a développé une rhétorique haineuse vis-à-vis d'un certain nombre de groupes, les migrants, les musulmans, les réfugiés. Et on voit aujourd'hui, depuis un mois qu'il est au pouvoir, que un certain nombre des mesures qu'il préconisait commencent à être mises en œuvre avec des conséquences dramatiques pour les droits humains.
Ouais. En vous écoutant, on voit bien qu'aucun continent ne semble épargné par cette régression des droits de l'homme.
Non, ce que l'on voit et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'effectivement, cette tendance n'a rien d'un phénomène régional ou que ce soit cantonné à un seul pays. On voit bien que cette tendance du développement de discours de haine, de peur, finalement gagne un très grand nombre de régions mondiales avec des risques évidents pour les droits fondamentaux que les peuples ont construits patiemment pendant des décennies. Mmh. Et ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que le risque avec cette rhétorique qui gagne, c'est le recul des libertés un peu partout dans le monde, parce que les droits et les libertés fondamentales sont considérés aujourd'hui comme une menace ou comme un problème, et qu'il faudrait finalement se débarrasser de ces droits pour gagner, je ne sais pas, par exemple, en sécurité, ou pour gagner dans tel ou tel domaine.
Donc. Nicolas Crameillère, il nous reste 45 secondes. Quel impact ce rapport peut-il avoir concrètement sur les mécanismes nationaux de protection des droits humains?
Alors, son impact, il est essentiellement double. Ce rapport fait chaque année, finalement, un bilan de la situation des droits humains pays par pays, mais montre aussi un certain nombre de tendances. Mais ce que l'on voit bien aujourd'hui, c'est que sans la mobilisation des citoyens partout dans le monde, finalement, ce genre de rapport a assez peu d'impact.
Oui. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, Nicolas Crameillère. Finalement, Amnesty n'est pas fataliste. Là où les dirigeants ont échoué, c'est au peuple de se lever. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on est obligé de rendre l'antenne pour le point complet sur l'actualité. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Crameillère. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour consacré à un sujet tabou ce matin, la santé des chefs d'État.
Priorité santé.
Claire Hédon vous invite à